Bonjour Corentin, ça me plaisait l'idée qu'on puisse s'entretenir toi et moi, sachant que cette proposition fait suite à l'exposition qui a lieu actuellement au Crédac, qui s'intitule La vie des tables et qui est curatée par Claire Le Restif, et dans laquelle tu montres une série de peintures sur papier, et moi je montre une autre pièce dont on parlera plus tard, lorsque tu viendras à ton tour m'interroger, m'interviewer dans mon atelier. J'avais découvert ton travail lors de ton exposition au Crédac. Je pense que je l'avais vu une fois avant dans la galerie Jean Broly, dans l'annexe.
Ouais, oui, on s'était rencontrés même, t'étais
Voilà,
là. Enfin, on s'était
c'est ça.
rencontrés, ouais.
Et en fait, ce qui m'a donné envie de qu'on s'entretienne, c'est que j'avais l'impression, enfin, qu'on ait une discussion. C'est que j'avais beaucoup apprécié dans ton exposition Crédac le fait que tu invites d'autres gens de ta génération et que du coup il y ait aussi des dialogues comme ça avec ton travail. Et l'autre chose, c'est que j'avais été très impressionnée par l'accrochage et j'avais trouvé ça vraiment très beau, le rapport entre la ville et les peintures et les fenêtres finalement, enfin, le fait que les peintures deviennent des fenêtres. Voilà, et je trouve que tous les artistes sont pas aptes non plus à avoir envie de se plonger dans le travail des uns et des autres. Donc je trouvais que c'était une vraie qualité. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Mais pour être honnête, je ne me souviens plus de ce que j'ai vu à la galerie Jean Broly. Alors que je me souviens évidemment très bien de l'expo au Crédac. Et ensuite j'ai suivi le travail après ça.
Jean Broly, c'était un tableau un peu monstrueux, en fait, justement. C'était un peu un portrait comme on voit là, d'espèces de papes et de cardinaux comme ça.
Ok.
Et il était très très grand, il faisait 2 mètres par 2 mètres. Et le Crédac, en fait, l'accrochage, quand même, je me rappelle qu'il avait été vachement fait avec l'équipe du Crédac aussi. Enfin, c'est pour ça que j'ai. Merci pour le compliment, mais j'ai pas trop de mérite parce qu'il y avait aussi. Enfin, je me rappelle justement que le coup des fenêtres, j'avais volontairement fait 15 tableaux en étant sûr qu'ils passeraient pas sur les murs pour qu'il y ait une sélection. Mais j'avais pas pensé au fait de les accrocher aux fenêtres. Et c'était
Et c'est
Claire
en discutant
et
avec
Jean-Louis
Claire,
qui ont
ouais.
dit, bah si, on va quand même tout mettre, et on les a suspendus comme ça. Et il y avait. Enfin, bon, après j'ai accepté évidemment, et puis on a vu que ça marchait, des fois ça marche pas, mais par contre il y avait une espèce de hasard assez beau qui était que certains tableaux correspondaient pas parfaitement, mais de manière très belle avec les couleurs des immeubles qui étaient derrière.
Mais oui,
Et du
complètement.
coup
Les
plein de gens,
rosés
ouais,
et les gris comme ça.
plein de gens pensaient que ça avait été fait in situ ou en considérant le fait que ça serait, alors que c'était vraiment un hasard, quoi.
Ouais,
Donc,
ouais. Ouais, puis le format était hyper adapté en fait. Enfin, la vue ne gênait pas le fait de regarder tes tableaux et inversement, tes tableaux soulignaient ce hors-champ en fait. Mais on reviendra plus tard au hors-champ, qui est une question qui me taraude en ce moment. Donc ma première question, c'était en fait, tu disais dans l'entretien que tu avais avec la galeriste de Sartor, que tu avais regardé très jeune en fait des peintres et je me demandais d'où était venue cette nécessité à regarder de la peinture aussi jeune quoi. C'est pas si fréquent.
Mais je pense que c'était un besoin d'avoir un modèle presque, enfin des modèles, pour commencer à peindre. Enfin, commencer à peindre.
Parce que tu avais envie de peindre, tu regardais ces
Ouais,
artistes.
enfin, je faisais pas des copies directement, mais il y avait vraiment l'idée de regarder. Bah, c'était à travers des catalogues où j'allais de temps en temps à Paris, mais c'était globalement des livres. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Et j'ai le souvenir quand même d'être dans un rapport de modèle et d'identification presque dans l'expérience entre guillemets de peinture quoi, que je mettais en place pour moi-même en faisant de la peinture assez jeune, quoi.
Mais tu te souviens de pourquoi tu avais cette nécessité-là à peindre?
Non, je sais plus trop, enfin il y a pas mal de choses. Il y avait déjà un entourage familial qui était très bienveillant là-dessus, quoi. Enfin, aussi, enfin, je fais de la musique depuis assez jeune, et donc on était vachement incités par mes parents. Après, mes grands-parents étaient céramistes aussi, donc ils ont fait les arts déco dans les années 50, donc il y avait quand même quelque chose.
Tu m'en avais parlé, mais justement.
Donc, il y avait un truc quand même ancré là-dedans, du côté de ma mère, sur le fait de dessiner quoi, de manière quotidienne. Enfin, c'était un peu. Et après, il y a des trucs hyper anecdotiques. C'est que mon grand frère, je me rappelle, il faisait des maquettes. Et moi, j'ai 4 ans de moins que lui, j'étais fasciné par le fait de le voir absorbé dans quelque chose pendant des heures. Donc il y avait presque l'idée de bah, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour. Et du coup, comme j'aimais bien dessiner, je suis passé vers 11 ans, je me suis dit, bon, bah, je vais faire sérieusement, entre guillemets, du dessin. Et j'ai demandé à mes parents de m'acheter un chevalet, la peinture acrylique, et puis je peignais sur des planches de bois que je trouvais, en fait, de chute ou de trucs. Je pense qu'il y a eu l'idée que ça m'a. J'ai tout de suite trouvé beaucoup de plaisir à faire ça et donc j'ai jamais arrêté, quoi. C'est plutôt. C'est un peu ça, quoi. Si on parle d'une espèce de vocation d'artiste ou de choses comme ça, moi j'ai tendance à penser que c'est plutôt une manière de faire durer le plaisir un peu constamment et qu'après, en fait, c'est juste des choix qui font que, bah, après le collège, j'avais la possibilité d'aller dans un lycée où il y avait une option art plastique lourde, c'était ce qui m'intéressait le plus, donc je suis allé là. Puis après le bac, je savais que les écoles d'art existaient, donc j'ai tout de suite fait une école d'art et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est vrai que finalement, la définition de ce que sera un artiste, c'est quand même, enfin, pour moi en tout cas, c'est le fait de se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et le plus possible, quoi. Et en luttant avec, avec l'économie, le travail ou plein de choses qui peuvent nous empêcher, quoi. Mais,
Est-ce que pour toi il y a une forme de vertu un peu curative dans le fait de peindre ? Est-ce que t'es ok avec ces termes-là ou pas du tout ?
Ouais. Si, après, en plus moi je dirais que ça que c'est quelque chose que j'ai plus tendance à ressentir quand je fais des ateliers avec des enfants. Ou même des fois des workshops en école d'art avec des étudiants qui font pas de peinture, mais on va mettre en condition une condition de travail collective où on va faire de la peinture, quoi. Et donc, évidemment, c'est plus visible avec des enfants, ce qui se laisse plus aller, mais on sent qu'il y a toujours une espèce de plaisir qui passe dans la fabrication, la manipulation de couleurs, et que ça fait. Enfin, c'est, je crois que c'est une phrase de Montessori qui dit un enfant qui se concentre, c'est un enfant heureux, je crois, un truc comme ça. Et donc oui, je pense que quand on trouve, alors c'est pas forcément la peinture, mais quand on trouve un angle de concentration et qu'on est bien dedans, en fait, ça, oui, ça apaise, quoi. Donc, peut-être, je sais pas, toi, est-ce que tu te retrouves dans ton travail aussi? Je pense qu'il y a ça aussi.
Ah ouais, moi, c'est, je fais exprès de te poser ces mots-là, ouais. parce que pour moi, oui, il y a une forme de vertu curative. J'ai beaucoup réfléchi à ça quand j'ai montré de l'art brut, en fait.
Ouais.
Au FEDAC, en me demandant évidemment ce qui faisait la différence entre les artistes bruts et les artistes non bruts. Et dans le fond, après, j'ai assez vite fait fi de cette question de la différence. J'ai plutôt pris les choses comme des formes, les œuvres en fait, en regardant les œuvres comme des formes plastiques qui étaient similaires à ce qu'on fait. Enfin, ouais. Je ne faisais pas de différence entre des artistes bruts et non bruts. Et en plus de ça, je suis convaincue aussi par le fait d'enseigner en école d'art et le fait d'avoir aussi été en école d'art que y a une nécessité telle à faire ça et à faire perdurer, comme tu dis, le plaisir et la réflexion, que cette nécessité, elle se rapproche presque d'un soin mental, j'ai envie de dire, enfin je sais pas comment dire, que ça va mieux si on va à l'atelier. Et donc oui, pour moi il y a une forme de vertu curative, ouais. Alors bien sûr, je dis ça tout en étant aussi consciente que la maladie mentale existe, hein. C'est
ouais.
Je fais pas comme si ça n'existait pas, mais au moment où le geste est là, où on fait acte de créer, faire surgir une forme, je pense que c'est pareil. Que ce soit artiste brut ou pas brut.
Ah oui,
voilà.
Ouais. C'est vrai qu'on emploie tellement le mot curation dans le sens du commissaire d'expo, et finalement on l'emploie peu sur le rapport créatif.
Ouais,
c'est vrai. Peut-être plus juste à cet endroit-là que. J'aime bien les commissaires d'expo, mais j'aime pas l'idée que ce soit des soignants et des gens qui prennent soin des artistes.
Non,
si les artistes étaient malades. Et je pense que la plupart d'ailleurs
n'adhèrent
pas à ça.
Non.
Mais par contre, limite, ce terme-là, qui est beaucoup revenu ces derniers temps, je trouve qu'on aurait presque plus intérêt à l'utiliser là.
Je voulais savoir aussi comment s'organise ta journée quand tu vas à l'atelier et si tu arrivais avec déjà une somme d'images dans la tête ou pas du tout. Que tu expliques un peu comment ça se déroule pour toi.
Ouais, alors j'y vais pas forcément tous les jours, quasiment quand même, mais pas forcément. Et, je travaille aussi chez moi, donc j'ai un atelier logement de la ville de Paris, mais comme beaucoup d'ateliers logement, bon, c'est très bien d'avoir ça, mais. Et finalement, chez moi, en tout cas, l'atelier, c'est pas, c'est le salon, c'est une pièce à vivre, donc je peux pas en fait ni stocker ni peindre à l'huile. Ici, donc on voit pas, mais c'est très chargé, il y a de la peinture sur les murs, enfin je fais un peu ce que je veux. Donc chez moi, j'ai quand même une table de travail où il y a mes enfants, enfin ma fille aussi qui a une table de travail à côté, mais autrement c'est le bureau, le salon. Donc enfin, tout ça pour dire que je peux aussi travailler chez moi, mais que j'aime bien cette chose-là qui me rappelle justement l'enfance où quand j'ai commencé à peindre, je peignais dans ma chambre. Et j'aimais bien en fait le fait d'avoir ça à disposition tout le temps quoi. Donc, ici ça rejouerait aussi l'idée de la chambre de l'adolescent d'ailleurs, mais j'aime bien que ça soit effectivement une espèce de bordel organisé avec des choses qui sont tout le temps en cours et du coup une sédimentation quoi, des peintures et des tableaux. Et puis là, je m'égare un peu dans la question, mais ouais, dans l'idée, je sais que j'ai toujours des choses en cours. Et que bah, je suis content de venir ici pour les reprendre ou aussi pour faire autre chose, enfin en sachant que je peux aussi faire autre chose quoi. Et là effectivement dans l'atelier il y a des portraits et c'est très nouveau, enfin ça fait 10 jours que je fais ça, ils sont très très croûteux, assez. Bah, je suis pas sûr de les montrer un jour quoi. De toute manière, si cette idée dans l'atelier on fait vraiment ce qu'on veut et que on peut ne pas montrer, effacer, jeter. Mais en tout cas, ouais, depuis quelques jours, je suis assez excité à l'idée de faire ces portraits. Parce que j'en fais pas depuis justement que je suis peut-être adolescent ou enfant. Quoi. Et là, comme j'ai une expo où je montre un vieux tableau que je faisais quand j'étais adolescent, ça m'a donné envie de réessayer de faire des portraits avec du coup pas du tout de modèle. Et du coup, le modèle devient assez vite un autoportrait ou un visage qui revient un peu tout le temps. Mais j'ai envie de faire des portraits de femmes, donc ça devient peut-être un autoportrait travesti, je sais pas trop. Et en fait, voilà. Bah pour décrire ces tableaux-là, il y a des fois des choses qui vont me ramener, bon, peut-être au fauvisme ou à des trucs presque classiques, mais il y a aussi celui qui est en haut, quelque chose qui me ramène à Myriam Kahn, qui est une peintre que j'aime énormément.
Ouais, moi aussi. Celui tout en haut ?
Non, celui qui est à côté de la porte en deuxième. Où je repense à un peintre qui m'avait beaucoup plu quand j'étais assez jeune, c'était Jaoulensky. Qui à la fin de sa vie. Minimalise entre guillemets le portrait pour en faire un icône et voilà et c'est.
Et tu penses pas du tout à James Ensor parce que.
Enfin, j'y ai pas pensé, mais oui.
Enfin, les crânes me font énormément penser à ça, à lui.
Ouais.
Et même dans l'espèce d'expressivité un peu dramatique, quoi. Il y a un truc dramatique. Je sais pas si c'est voulu, mais.
Ouais, oui,
je trouve ça très drôle. Et non, mais donc ma question, je me demandais si. Si justement tu charries avec ces portraits tout un tas de références ou bien t'es un peu vierge de références quand tu te mets à travailler.
Bah oui, enfin je suis vierge quand je commence à travailler, mais directement les références arrivent quoi. Et après c'est ça pour moi le gros plaisir, c'est pour ça que j'aime autant l'histoire de l'art, c'est qu'il y a du coup très vite un jeu avec ces références là qui est permis par la pratique peut-être quotidienne justement quoi. Je sais pas, tel portrait va m'évoquer peut-être plus mon Ensor, j'y avais pas pensé, mais peut-être que comme tu m'en parles, je vais aller revoir de près Ensor et ça va en fait s'accentuer à des endroits quoi.
Et celui en haut, on dirait vraiment, enfin, en fait, avant tout de venir à l'atelier, ouais, tout en haut.
En fait, celui-là, il est plus vieux par contre, il est là depuis 2 ans.
Ah.
Et ça, c'est un portrait que j'avais fait avec Damien Ledévédec.
Ah oui,
donc,
avec
lui
qui
dessine,
tu dessines.
Il peint. Ouais. Sauf que là, son dessin s'est perdu dans la couche d'huile, et il a 3 ans. Il ressemble légèrement, alors que c'était pas le cas au début, à mon amie Maëla Bescon. Enfin bon, elle sera pas contente de l'apprendre. Et à la base, c'était peut-être un portrait d'homme, je crois. Enfin, je sais plus, mais bon, bref.
Ah bah moi j'ai pensé qu'il était contemporain à ce que tu fais en ce moment, quoi. Et donc, c'est plutôt drôle. Mais parce qu'avant de venir, je me disais, tu parlais pas, je t'ai pas entendu parler de Bonnard.
Ouais.
Mais il y avait un truc de Bonnard dans ta touche, et en même temps, c'est comme si. Caricaturer un peu Bonnard, enfin, y a un truc comme ça, et j'aime beaucoup cette idée, et du coup le portrait du haut là justement, qui est dans les jaunes, oranges et roses et un petit peu de vert, fait vachement penser en fait à la palette de Bonnard, et c'est drôle, qu'est-ce que tu penses de ce peintre ?
J'aime beaucoup, mais non, en plus Bonnard c'est peut-être ce truc d'une lenteur et d'une sédimentation que j'aime beaucoup chez lui, quoi. J'ai fait un reportage d'ailleurs, c'était pendant le confinement. Je te montrerai après, mais après j'ai fait juste un tableau de 3 personnages dans une baignoire, mais qui pour le coup est presque caricatural. C'est Villemain qui fait une blague avec Bonnard presque.
D'accord.
Non, et puis c'est pas. C'est, c'est aussi tout le rapport au lieu à la fin de sa vie que je trouve assez beau, quoi, de la maison qui devient
ouais.
le cadre, avec l'idée que cette maison est toute petite, mais comme on la connaît à travers les tableaux, elle paraît très grande. Non, un peu beau. Pareil, en fait.
Puis il y a la question de la variation, quoi,
ouais,
est quand même magnifique.
Moi, je suis toujours Matisse et Picasso comme des grands trucs connus, mais en fait, Bonnard est aussi important. Enfin, fait partie des peintres que j'ai découvert assez jeune et qui m'ont marqué, quoi. Et après, c'est vrai que, enfin, pour revenir à ça, c'est que l'idée que ça me paraît accessible, en fait, de peindre comme Bonnard. Enfin, peut-être pas aussi bien, évidemment, mais que c'est des moyens assez restreints et que tout le monde, en fait, peut d'un coup faire une expérience qui va lui... Le mettre dans ce que peut-être vivait Bonnard quand il peignait, quoi. Et voilà, on parle que de
peintre.
T'as le
sentiment que Bonnard peut être copié comme ça par des amateurs?
C'est pas la copie.
Qu'est-ce que tu veux dire par le fait de...
J'aimerais bien trouver un mot justement qui soit autre que celui de copier.
Ouais, c'est...
Mais c'est plutôt...
Comme une inspiration, tu veux dire?
Bon, voilà, on va dire une inspiration, mais en tout cas, c'est retrouver une sensation de peinture, quoi, de vibration de couleur, en ayant en tête un peintre et des choses qu'il a produites. Et puis là, on parle que de peintres morts, mais en fait, c'est valable aussi pour... Enfin, sinon, on n'a pas une Myriam Kahn, mais c'est valable pour des peintres vivants.
Et justement, en parlant des... Enfin, là, je m'éloigne un peu des questions que j'avais prévues, mais je trouve ça intéressant, c'est... Par exemple, je me demandais si tu avais regardé beaucoup le travail d'Eric Korne et aussi de Benjamin Sweim.
Alors, Eric Korne, je connais un tout petit peu, mais j'en ai jamais vu en vrai. J'avoue que je connais pas assez pour
avoir
un avis, en fait. En fait, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais enfin, je connaissais de nom, j'ai peut-être déjà vu, mais j'ai regardé d'un peu plus près récemment. Et puis Benjamin, lui, pour le coup, je le connais bien. Enfin, c'est un ami. Et il vient souvent à l'atelier. Moi, je vais lui rendre visite aussi. Et j'aime vraiment beaucoup son travail. J'en ai même un. Enfin, on avait fait un échange de pièces. Voilà. Après, moi, sur la question de la figuration, je suis presque un peu embêté parce que je ne me sens pas particulièrement figuratif.
Ouais, mais c'est...
Ouais, non, mais je sais que je le suis, je peux pas le nier, hein, bien sûr. Mais,
enfin, je suis d'accord au sens, pardon, je précise que ce terme, je le trouve quand même presque désuet.
Ouais,
hein,
ouais.
Je veux dire, c'est une façon de dire que surgit quand même des visages, des oiseaux, des êtres plutôt vivants. Quoi.
Je peux pas le nier, mais après, bah, disons que moi, le principe, c'est que je mets à peu près tout sur le même plan dans le travail. Des tableaux abstraits, des tableaux où il y a du texte, et puis des tableaux où il va y avoir une figure, quoi. Après, c'est vrai que même, là on parle que de peinture, mais dans l'absolu, j'aime bien que les expos, ça ne concerne pas que la peinture, et qu'il y ait soit d'autres artistes, soit des éléments d'installation, parfois de la vidéo, et beaucoup de sons aussi, enfin de musique. Donc ça, c'est juste pour dire aussi qu'il y aurait peut-être ces trois catégories dans la peinture, mais il y a aussi d'autres catégories qui m'intéressent autant de travailler. Donc évidemment, ici, c'est un atelier de peinture, donc je ne fais pas forcément autre chose, mais... voilà, et puis après pour moi la figure est revenue en fait progressivement, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de peinture figurative quand j'ai commencé à peindre. J'estime
à
aussi,
l'école aussi, pardon.
Pas au Beaux-Arts, non,
pas
justement.
Beaux-Arts. Ouais, ouais. Je dis ça parce que c'est pas si simple en fait quand même de parler de figuration, je sais pas comment appeler ça autrement. Ça l'était pas moi quand j'ai fait mes études dans les années, au début des années 2000 en fait.
Bah, moi c'était milieu 2000,
voilà.
Fin 2000 et je pense que c'était compliqué aussi.
Ouais.
Et pourtant on n'était pas, enfin moi je suis toujours très proche de l'enseignant que j'avais au Beaux-Arts, Jean-François Morige.
Ouais.
Et je veux dire, on n'était pas interdit de faire de la figure, quoi. C'était plutôt un bain général qui faisait qu'on allait, que moi je suis allé tout de suite vers des questions. De non-figuration, mais aussi de déconstruction du tableau. Et d'ailleurs, moi, je suis assez intéressé en ce moment de voir que ces questions-là n'existent plus vraiment, que les questions formelles autour du tableau ont été, pas complètement, mais ont l'air d'avoir été vachement évacuées. Et du coup, on a un retour à beaucoup de peintures figuratives, mais qui ne questionnent absolument plus l'objet tableau, quoi. Enfin, absolument plus. Beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Alors, pour moi, c'est un peu pour le pire et pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a des choses intéressantes dans peut-être une plus grande prise sur le réel ou des revendications qui sont plus fortes et que nous, on avait peut-être tendance, enfin moi, quand j'étais étudiant, on avait tendance à évacuer, ou à pas du tout se questionner. Et par contre, aussi pour le pire, dans le sens où des fois, on retourne juste à un rapport d'iconographie, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que il y a eu toute une histoire du XXe siècle de l'art qui fait qu'on peut tout se permettre. Et si on vient juste à un rapport d'une peinture bien réalisée, qu'on peut vendre à un prix cher pour le collectionneur, Ça, moi, ça me fait fuir un peu, quoi, mais bon.
Je suis hyper d'accord, je trouve, et c'est pour ça que je trouve que c'est une question super importante. Parce qu'il y a une forme aussi d'ignorance dans le fait de faire tabula rasa sans le savoir,
Ouais.
de ce rapport de la construction du tableau, comme tu dis. Et en même temps, je trouve ça assez génial de pouvoir réinjecter une forme de subjectivité et d'expressivité qui faisait si peur pendant de nombreuses années dans les écoles d'art, quoi. Donc c'est vraiment à double tranchant, cette question, quoi. Mais j'aime bien comment tu y réponds, parce que... Effectivement, parce que tu connais aussi cette histoire-là du tableau.
Ouais, mais peut-être que je ne m'autoriserais pas ce retour figuratif s'il n'y avait pas cette ère du temps aussi. Enfin, j'en sais rien.
Ouais, c'est une grande question pour moi. C'est une grande question.
On ne peut pas répondre à ça, en fait. Enfin, je veux dire, peut-être un critique d'art.
Non, non, on ne peut pas, mais c'est pas totalement anodin non plus de faire ce que vous faites aussi. Avec, enfin, je dis vous avec Benjamin aussi, parce qu'il y a une forme de... tu parlais de surenchère comme ça. C'est un peu différent chez les Bajins, parce que je trouve ça peut-être presque plus mélancolique, en fait.
Ouais.
Chez Benjamin, Swaim.
Après, il construit peut-être plus aussi. Enfin, je veux dire, pour lui rendre souvent visite, il fait des grands formats, et puis bah, vachement dessiné autour, et, etc.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, ça reste en fait plutôt des petits formats quand je fais du figuratif.
Ouais.
Les grands formats restent abstraits ou des choses textuelles. Et après, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il ne sait pas dessiner. Il sait dessiner dans les faits, mais il revendique le fait de ne pas se soucier de la justesse du dessin. Et d'ailleurs même, je crois qu'il n'enseigne plus, mais pendant longtemps, il enseignait le dessin.
Oui, je sais.
Et il disait à ses élèves qu'il ne savait pas dessiner.
Oui, il l'a
assumé. Je trouve ça super, en fait, comme rapport, quoi. Et je m'y retrouve aussi, parce que moi, j'estime que je ne sais pas dessiner, qu'en tout cas, ça ne m'intéresse pas, en fait, de... savoir dessiner selon en tout cas des règles classiques académiques, quoi.
Mais ça veut dire quoi, savoir dessiner, en fait?
Bah, juste dans ce sens académique, en fait. Mm. Mais évidemment, en fait, ça veut rien dire savoir dessiner. Mais
justement, c'est bien que tu poses la question, enfin que tu amènes le dessin comme ça dans la discussion, parce que tu travailles avec ton ami souvent.
Ouais, Damien. Ouais.
Damien, qui dessine pour toi. On a l'impression qu'il dessine pour toi. Mm-hmm. Et je me suis demandé, en fait, tu m'avais dit ça quand... moi, je savais pas, en fait, mais tu m'avais dit ça lors de l'exposition l'année dernière pour le prix Ricard, parce que vous avez fait un tableau ensemble, là, qui était... Ouais. Comment il s'appelait?
Il y avait écrit Anne dessus.
Oui, voilà.
Ouais. Et c'était, en fait, une sainte bretonne.
Ouais, c'est ça. Film, ouais. Et je me suis demandé, et je sais pas pourquoi, sur le moment, je t'ai pas demandé, mais après coup, je me suis demandé, mais il s'est pas dessiné, Damien Corentin, pardon. Pourquoi il... Pourquoi tu fais appel à ton ami pour dessiner? Et quel était justement, toi, ton rapport au dessin? Est-ce que ça t'arrive de lâcher le pinceau pour juste des crayons de couleur, par exemple?
Ouais, bah, en plus, oui. Ouais, bah, j'aime bien dessiner, même, j'ai envie de dire, mais je préfère peindre, quoi, un truc comme ça. Après, pour Damien, c'est encore une fois une espèce de plaisir, enfin une presque d'habitude qu'on a prise, quoi, tous les deux. Après, lui, on fait de la musique ensemble aussi. On a fait beaucoup de commissariats d'expo aussi, tous les deux. Donc, on a une habitude, enfin, même beaucoup travaillé à deux. Enfin, il y a d'autres gens aussi, hein, mais c'est vrai que, en fait, ce qui se passe dans le fait de travailler avec lui, c'est que moi, ça me fait me concentrer encore plus sur la peinture, enfin des gestes de peinture, le fait d'avoir un fond, enfin, c'est-à-dire que le dessin c'est une grille presque que lui va poser, et moi du coup je vais peut-être faire des rapports de couleurs ou des gestes de peinture que je ferais pas si j'étais dans la mécanique solitaire que je me pose moi-même, quoi.
Ça ralentit, en fait, un peu. Ça ralentit ton geste
d'être tout seul?
Non, d'avoir ce dessin-là en amont.
Non, au contraire, ça va peut-être même amplifier, quoi.
Ah, ça amplifie ton geste, le fait qu'il y ait le dessin de Damien en dessous?
Ouais, parce que j'ai pas de respect, entre guillemets, pour son dessin.
Ah, d'accord.
Et lui, tient à ce que j'ai pas de respect pour son dessin. Et du coup, ça va créer un truc qui est déjà hyper...
mais c'est pas du tout...
Il y a beaucoup de jubilation, quoi, là-dedans, mais...
Ouais, c'est ce que tu disais dans l'entretien, encore une fois, avec la galeriste, là. Mais pour moi, c'est inconcevable d'avoir... le dessin de quelqu'un d'autre qui viendrait guider mes gestes, même pour un...
Après, c'est aussi bête comme du coloriage, quoi.
Pas tant que ça, parce qu'en
au final, on
perd le dessin. Ouais. On perd le dessin de Damien. Mmh. Et à la fin, on dit, ah bah oui, c'est Corentin Capin. On comprend ta touche, on voit... ton style et on sait même pas qu'il y a Damien si tu le disais pas.
Mais donc, lui, il aime beaucoup ça, ceci dit.
Non, mais je dis pas du tout que c'est un instrument de... Je comprends bien que vous êtes raccord là-dessus.
Enfin, pour rentrer dans les détails, c'est que quand il est là, quand je peins, il me donne des indications. Et souvent, il m'engueule si je garde trop le contour, justement.
Ah ouais.
Moi, j'ai tendance à cerner en noir et lui, à chaque fois, il m'engueule en me disant non, faut pas que tu suives le dessin, faut que tu satures, faut que tu machin. Donc c'est... Et c'était drôle à Ricard parce que comme on peignait sur place et que c'était des grands formats, en fait, il y a eu des moments où pour aller plus vite, il était assis, il regardait ce que je faisais et puis il m'indiquait. Comme ça, j'avais pas besoin de prendre de recul.
D'accord. C'est comme si c'était un deuxième cerveau, quoi.
Un peu, ouais. Enfin, okay. Bon. Mais c'est hyper amusant, en fait, aussi, quoi. Puis, enfin, dans le processus, en plus, il y avait eu l'inverse, c'est que le matin, il était venu dessiner, moi, j'étais assis, je commentais, puis après, l'après-midi, on changeait le rôle, et puis...
D'accord.
Donc, ça crée des situations assez drôles.
Vous avez fait l'école ensemble ?
Ouais.
Ah ouais.
Beaux-Arts de
Rennes. Vous avez une complicité assez ancienne, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Même si ça fait que 6-7 ans qu'on fait ça, de dessiner à deux, quoi, mais...
Du coup,
au Beaux-Arts, on avait monté une galerie avec Julien, qui est à côté, là, au doc, aussi, et Maïla... Mon ami, et on avait fait ça en deuxième année, quoi. Donc on faisait des expos de... à la base, c'était de nos amis qui étaient à l'école d'art, et puis après, on invitait d'autres artistes plus connus, dont Nicolas Chardon, etc.
D'accord.
Donc ça a été aussi très formateur pour nous, et puis ça nous a soudés, quoi, entre guillemets.
Ouais, du coup, tu disais que finalement, tu nivelles tout. Et moi, en venant à l'atelier, je me demandais si pour toi, tout pouvait devenir un sujet de représentation, ou bien s'il y avait des sujets qui faisaient plus sens que d'autres. Enfin, et je pensais, du coup, tu parles beaucoup de la série, et tu disais que la série permettait de développer, en fait, et de comprendre mieux ce que tu étais en train de faire, et ce que je comprends totalement. Mais, ouais, est-ce que pour toi, le sujet est une question, ou absolument pas ?
Si, si. Puis le sujet, souvent, il déclenche un peu la série, en fait.
Oui, par là, tu parlais de tes portraits que tu es en train de faire en ce moment.
Mais en fait, il y a un truc, on est toujours. Enfin, moi, en tout cas, je suis toujours un peu à la recherche d'un sujet, quoi. Au fond de ma tête, quoi.
Ouais.
Toujours un peu un truc qui reste en éveil, comme ça.
Ouais.
Et c'est pour ça que le sujet, il peut venir un peu de n'importe où. Et donc, dans l'absolu, tout peut être un sujet. Après, c'est pas le cas parce qu'il y a toujours une sélection, un filtre, quoi. Enfin, un filtre. Une sélection, quoi, qui s'opère, ou un choix.
Mais pour l'instant, moi, qu'est-ce que tu as eu comme sujet de prédilection ? Moi, j'ai l'impression que...
Bah, si on fait l'énumération, il y a un peu de tout et n'importe quoi, quoi. Parce que, bon, on va dire que le texte, c'est pas un sujet, mais on pourrait dire que c'est devenu quand même une catégorie de tableaux.
Ouais, ça,
tableaux
je suis d'accord, textuels. Une catégorie, ouais.
Mais là-dedans, dans cette catégorie-là, il y a l'idée que finalement, le sujet du texte des peintures vient de plein d'éléments différents, donc surtout de la musique.
Ouais.
Mais pour moi, du coup, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit le tableau, il va voir le texte sans savoir que c'est une chanson, mais... Pour moi, ça devient un truc très très relié à la chanson en question. Quoi. Donc là-dedans, il y aurait presque des catégories à faire. Et après, donc, il y aurait presque des sujets dans les peintures abstraites aussi, avec différents registres.
Vas-y, ça, je trouve ça super intéressant que tu dises ça.
Bah, là, du coup, je suis obligé de les catégoriser par rapport à des influences.
Ouais, bien sûr.
Il y aurait des peintures très Bram van Veldien, mais qui aussi joue sur Brice Marden, qui était un premier choc aussi dans les tableaux abstraits qu'il fait gestuels.
Ouais.
Et donc c'est plutôt une espèce de circulation à l'intérieur du tableau, du geste. Quoi. Et ça, je sais que je fais toujours des tableaux comme ça depuis 8 ans, mais en fait depuis que j'ai commencé à peindre.
Après avoir vu en fait...
Ouais, enfin vu... Bram van Veld, j'ai découvert ça très jeune parce que ma mère qui a fait les Beaux-Arts était très admirative de ça, donc je pense que ça m'a très vite marqué. Et après, je pense que je le dis peut-être mal, mais cette histoire de la circulation d'un geste dans le tableau, qui va être une circulation qui est quand même cadrée. Enfin, je m'exprime peut-être un peu mal. Mais l'exemple un peu ultime, c'est les Demoiselles d'Avignon. Tu vois, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une recherche dans un certain type de peinture que je produis de ce sens-là. Quoi.
Mais oui,
et qu'on retrouve beaucoup dans l'expressionnisme abstrait, évidemment, et qu'on retrouve chez des peintres actuels. Ou chez René Lévy, moi je retrouve ça souvent.
Ouais.
En fait. J'en ai jamais discuté avec elle directement, d'ailleurs, mais... Il y a dans les tableaux figuratifs aussi des catégories qui vont donc de l'oiseau à tout récemment des portraits, des personnages. Il y a eu une série que j'avais fait de couilles, qui était peinte.
Oui.
Voilà. Oui, ça venait d'un ami écrivain qui avait écrit une fausse fiction sur mon travail où je peignais des couilles. Donc j'ai repris la fiction pour. Voilà. Ouais. Et donc il y a tous ces petits tableaux très boueux ou très croûteux qui sont érotiques. Et là, le sujet érotique, c'est juste des personnages qui s'enlacent, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais tout ça venait en fait de tableaux abstraits. Ouais.
Justement, j'avais une question sur le choix des formats. Pour les oiseaux, c'est assez clair. Et pour les portraits, bon, bah, c'est nouveau, mais visiblement, ça va rester des formats assez petits. Format quasiment à l'échelle d'une tête, quoi, d'un visage. À l'échelle 1, je veux dire. Légèrement plus grand, peut-être, mais voilà, ça dépend. Et pour les couples, comme j'avais vu, j'en ai pas trop vu en vrai, sauf là aujourd'hui dans ton atelier, mais j'avais pas idée des formats. Et c'est petit, non?
Ouais, ils sont tout petits.
Ils sont tout petits, ouais. Et tu les as un peu montrés, ceux-là?
Bah là, justement, on en montre en ce moment, là, à la Galerie, Sator.
Ouais, mais, ok.
Non, autrement, on en avait montré un cet été à la Galerie Jean Broly, avec Nicolas Chardon, quand il avait fait une expo collective.
Dans la collectif, ouais.
Mais non, et puis en fait, c'est peut-être qu'ils sont assez durs, je veux dire, et qu'il faut trouver des conditions
Et en même temps, on imagine
particulières pour les montrer, quoi. Enfin, je sais pas. Bon,
je sais pas, moi j'imagine bien une petite ligne de tableau comme ça, je les aime beaucoup, je les trouve super. Bah,
c'est ce qu'on a fait là, justement, à Sator, il y a une ligne assez rapprochée.
Ouais. D'accord.
Mais pour revenir à ça, c'est qu'il y a des questions un peu formelles, c'est que j'ai essayé de les agrandir, ces tableaux-là, et ça marchait pas. Donc, c'est des histoires d'échelle, quoi. Enfin, il y en a un seul que j'ai fait en grand, que j'avais montré, donc que j'avais pas montré justement, mais qui était dans une sélection que j'ai présentée à Nathalie Obadia en 2018. Ouais. Mais il y en a un seul grand que j'ai réussi, entre guillemets, quoi, et que j'ai trouvé acceptable.
D'accord.
Et en fait, c'est après des problèmes très personnels de quand on a réussi un tableau, on a envie de faire mieux ou de faire pareil, mais en fait, du coup, on se fait une pression qui fait qu'on va le rater quasiment systématiquement.
Ouais, absolument.
Et
ouais.
Du coup, je pense que le petit format me convient bien pour faire ces tableaux-là, parce que je peux en faire plein, les rater, les machins, et... enfin, les rater.
Et c'est de la peinture à l'huile.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais il y a un modelé, en fait, qu'on sent qui est.
Mais j'avais commencé à les faire quand je commençais à faire de la peinture à l'huile, comme une espèce d'amusement à côté. Enfin, c'était l'expo au Crédac où j'avais fait 15 tableaux abstraits qui étaient la plupart à l'huile, mais c'était la première fois que j'utilisais de l'huile.
Et
ça me mettait quand même une espèce de pression parce que je connaissais pas toutes les subtilités techniques et que ça coûte aussi un peu plus cher. Et du coup, un peu pour me mettre en jambes, je faisais ces petits tableaux érotiques.
Et qui partent pas du tout d'images que tu regardes avant.
Non, c'est.
Ça surgit de.
Ouais, voilà, puis c'est un peu un truc de dessin automatique.
Ouais.
Enfin, moi j'aime bien l'idée du dessin automatique, même transposé en peinture, quoi.
Où
en fait on va faire une première chose qui va nous faire penser à autre chose et qui fait qu'on l'enchaîne, quoi.
Mais ouais, bien sûr.
Ça, c'est un autre sujet, mais peut-être plus lié à la musique, mais on a commencé à y réfléchir pas mal avec le groupe avec qui je travaille, donc. On a fait deux albums et à chaque fois qu'on fait un album, on prépare rien avant l'enregistrement. Et c'est de l'improvisation du coup, qui après va être retravaillée pour en faire quelque chose. Mais en fait, j'aime bien moi, cette idée de l'improvisation quoi, de manière générale. Et, du coup aussi dans la pratique artistique. Quoi. En sachant que l'improvisation, elle vient jamais de nulle part.
Enfin, voilà, ouais. C'est ça. C'est évident que...
Même si c'est un instrument dont on ne sait pas jouer, il y aura quand même...
Mais ça t'arrive, ça, de jouer d'un instrument que tu sais pas jouer?
Un peu, mais on va pas enregistrer quoi, dans ces cas-là. Mais... Par contre, on tourne des fois un peu dans le groupe.
D'accord, vous échangez vos instruments.
Ouais. Des fois, je fais de la basse ou on fait des percussions. Enfin, je fais de la guitare, moi, normalement.
Mais après, vous retravaillez quand même. C'est comme une première strat. Vous enregistrez et ensuite, vous venez travailler.
Ou c'est ce qu'on appelle un buff qui va être lancé comme ça. Et puis, on décide de garder tel moment et de le retravailler. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut plus faire de concert depuis plus d'un an. Mais ce qui est agréable en concert, c'est aussi de rejouer ces morceaux-là, mais en gardant des structures ouvertes
pour intégrer d'autres choses.
Qu'il y ait du changement, en fait, aussi. Ouais. C'est un peu aussi une manière de ne pas s'ennuyer. Enfin, après, je ne sais pas, il y a des gens très techniciens, justement, qui veulent exécuter à la lettre le morceau qui a été enregistré. Mais...
Ouais, il y a... Alors, après, c'est évident qu'il y a un lien, justement, entre l'érotisme et ta peinture. Je ne savais pas que tu aimais Myriam Khan, et ça me réjouit, parce que j'adore, et qu'elle a fait aussi plein de dessins d'hommes en érection,
et de sexe
en érection, et de mains qui touchent le sexe. Et je trouve ça génial, et voilà, donc du coup,
Non, mais en plus, je crois que le fait d'avoir vu ces dessins de Myriam Khan m'ont encouragé, moi, à faire des tableaux érotiques. Mais j'ai déjà pensé à cette question. Il y a cette phrase, je crois, de Picasso, genre, je ne fais pas de différence entre l'art et le sexe, que j'ai toujours trouvé un peu débile, moi, enfin, personnel, enfin, à titre personnel en tout cas. Par contre, j'avais fait, avant de faire ces peintures érotiques, une série de dessins érotiques, plus à la plume et travaillé. Et là, j'avoue qu'il y avait un rapport un peu jouissif, enfin, qui m'excitait, entre guillemets, quand je faisais le dessin. Mais pour la peinture, absolument pas, parce que
Ça va, hein?
je. Ouais, voilà, c'était des dessins comme ça. Et là, pour le coup, j'avais des modèles assez précis, des gravures érotiques du fin 19e, début 20e, que je trouve assez belles en fait, parce qu'en plus, il y a cette idée que c'était avant la photo pornographique, quoi. Et donc, on a affaire à des objets qu'on peut même plus envisager maintenant, tellement la pornographie est là, et que je pense, dès qu'il y a eu du cinéma ou de la photo, on a fait enfin, des photos pornographiques érotiques, quoi. Et du coup, j'aime bien ces objets-là. Donc là, j'avoue qu'il y avait peut-être une excitation, mais autrement, quand je fais des peintures érotiques qui sont très gestuelles et très croûteuses, je vois ça d'abord en tant que peinture et pas en tant que représentation.
C'était métaphorique, hein,
Ouais, je
évidemment.
sais. Ouais, mais
C'est
je réponds
pas.
de manière très littérale, moi, je crois, en fait. C'est métaphorique, mais je prends ça au premier degré. Ouais.
Non, mais parce
Ouais.
que. Parce que je dis ça parce que je pense que. Chaque. Enfin, que le cadre généré par une forme. Enfin, chaque forme est un cadre, pour moi. Et dans ce cadre, il y a. Il y a un truc hyper érotique à chaque fois qui se passe dans le
Ouais,
geste.
ouais.
Mais de façon, je veux dire, pas, uniquement mentale, quoi,
Ouais.
évidemment.
Bah, pas uniquement mental quand même, parce que.
Non, pas uniquement
Ouais,
mentale, parce qu'on travaille avec nos corps,
ouais.
mais ça, c'est évident. Et notre perception globale. Mais je me permettais aussi de te poser cette question parce que j'ai lu le faux journal
Ah oui,
du
tu l'as lu. Ah bah oui,
peintre
je l'ai
que
envoyé à
j'ai.
Maxime,
Voilà,
voilà.
qui me l'a transmis.
Bah
Et
oui.
ça m'a fait beaucoup rire parce que j'avais pas été là lors des
Ouais.
lectures au Crédac.
Ouais.
Mais il est beaucoup question d'érection.
Ouais, il a
Et je
poussé le
trouvais
bouchon
ça
très loin,
vraiment.
ouais.
Oui,
Ouais,
j'imagine
ouais.
bien. Autant
Ouais.
parler de cette
D'accord,
question
est-ce
qui est
que.
assez peu.
Ouais. Assez peu traité, tu veux dire. Enfin, oui,
Ouais,
voilà.
enfin. Et puis ça me faisait marrer de te poser cette question en tant que femme artiste aussi.
Ouais. Bah, mais je te.
Mais voilà, après, il n'y a peut-être pas à dire grand-chose.
Si, non, non, pas mal de choses, mais. Après, ça devient aussi tout un truc de psychologie, quoi, tu vois.
Parce que tu as commencé l'entretien en parlant du fait qu'être artiste et faire perdurer le plaisir.
Ouais, bien sûr,
Et donc, moi, j'en suis convaincue, quoi. Mais.
Ça va presque me poser un problème éthique dans le sens où je ramène tout le temps ce plaisir-là à l'enfance. Et du coup, il faut commencer à réfléchir à la question de la sexualité de l'enfant aussi.
Bien
Et
sûr.
tout ça, et je suis presque certain qu'il y a un lien avec tout ça, mais du coup, ça veut dire qu'il faut se mettre à table ou sur le divan et
Non,
vraiment
c'est
faire
pas
une
ce que je voulais
espèce
dire.
de truc que j'aimerais bien faire un jour, mais ça va peut-être pas intéresser les gens en plus,
Bah moi je pense qu'il y
tu
a que
vois.
le cœur des choses est là en fait.
Ouais,
Donc
c'est sûr.
c'est pour ça que.
Et juste pour finir
Ouais,
sur
vas-y.
sur l'érotisme, c'est que moi, en fait, c'était un truc que je disais, que j'ai commencé à dire quand je discutais avec des gens des visites d'atelier, que mon but, ça serait de faire des peintures érotiques, mais qui ne seraient pas érotiques dans le sens où je peindrais une image pornographique, mais d'arriver à quelque chose. Et je ne suis pas sûr du tout d'y être parvenu, ou de toute façon, ce n'est pas moi d'en juger, mais je sais que le démarrage de ces petits tableaux était à la suite de ça, quoi, donc là, pour le coup, en plus, c'est assez littéral, mais déjà, en fait, même, j'arrive pas à savoir ce que ça serait. Une peinture érotique, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une interrogation.
Bah oui. Et est-ce que pour toi il y a un lien, enfin je, ça c'est une question un petit peu, c'est la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, est-ce que tu t'as, ma question c'était est-ce que être peintre c'est s'approcher d'une forme de mysticisme ou pas du tout?
Ah ouais. Moi, je suis complètement athée, j'ai une éducation complètement athée, donc en fait, la question est. Pour moi, toujours un peu complexe. Parce qu'en plus, je ne suis pas anti-religieux, enfin anti-mystique. Je veux bien de temps en temps admettre qu'il y a une énergie dans le monde qui me dépasse. Et, voilà, bon. Mais après, dans les faits, je ne sais pas comment l'appliquer, etc.
Dans le fait de faire corps avec ton sujet, c'est
Ouais,
ça que
ouais.
j'entends.
Ouais. Après, il y a une histoire, mais peut-être que du coup, on revient dans l'érotisme, mais de sensations un peu vertigineuses, mais de satisfaction pour moi, des fois, que j'ai quand je travaille, quoi. Et c'est peut-être là qu'il y a. Non, je peux pas employer le mot mystique, ça j'arrive pas, mais ouais, quelque chose qui nous fait décoller un peu, quoi, du réel et de ces choses-là. Et ça, je veux bien le croire, et c'est peut-être ça qui fait qu'on reste fasciné par les peintures anciennes ou même actuelles ou qui se produisent, quoi. On peut parler d'une espèce d'énergie aussi, quoi. Ouais.
Moi, j'avais dit dans un entretien que je fais depuis plusieurs années avec un chercheur en ethnographie, qu'on sécrétait presque, enfin moi en tout cas dans mon cas, à l'atelier, j'avais l'impression de sécréter une hormone presque étrange qui ressemblerait à comme quand tu prends de la drogue, quoi. Et du coup, il y avait ce truc-là aussi et je trouve que enfin moi, je me suis... C'est très récent que je m'intéresse au mysticisme parce que je suis complètement athée aussi. Mais quand tu lis des écrits de mystiques, il y a vraiment un état,
Ouais,
en
bien
fait. Et
sûr.
c'est vraiment cet état-là que j'essaye de faire parler, en fait, quand tu es à l'atelier, parce que l'atelier génère ça, en fait, je trouve, cet état.
Moi, je l'associe beaucoup à la musique aussi, du coup, tu
Ouais,
vois.
bien sûr.
Et après, oui, effectivement, c'est là qu'on peut faire le parallèle avec la sexualité ou l'état amoureux, quoi, ou des choses comme ça. Mais j'avoue que, à titre personnel, j'arrive pas à me dire que ça peut venir d'ailleurs d'autre part que de nous-mêmes, quoi.
Ah oui, non, ça,
Ouais.
bien
Oui, ça, c'est pas
sûr.
ce que tu
Mais
dis
en
non
même
plus,
temps,
hein,
en fait, chez les mystiques, ça
ouais.
vient
Oui, de même,
si tu veux,
si
de
c'est
même, hein, c'est
intérieur,
vraiment
ouais, c'est sûr.
c'est presque performatif, on va dire, quoi. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un truc performatif dans chaque forme qu'on génère.
Mais après, il y a ce fait que, enfin, pour ma part, en tout cas, je suis esclave de l'histoire de l'art, quoi, du coup. Et
Bah ouais.
que du coup,
C'est ce qui fait prendre une distance aussi.
ouais, ça fait prendre une distance, mais ça fait aussi qu'on peut toujours mettre en doute la véracité de cet état de
Ah oui.
plaisir, dans le sens où, en fait, il viendrait aussi d'un passé, d'une culture.
Bien sûr, ouais.
Et c'est peut-être pour ça que, du coup, ça peut être bien d'aller voir justement. Hors de l'histoire de l'art occidental imposé pour comprendre et voir d'autres choses et se dire que. Mais c'est vrai que moi je suis obligé d'admettre que je suis dans une filiation extrêmement classique et européenne, voilà, même par le fait que ce soit sur un tableau, etc., quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Et dans la musique que j'écoute aussi, quoi, enfin, ou que je produis, quoi, ça reste schéma classique, rock, guitare, basse, batterie, enfin il y a de l'électro aussi. Mais après, moi je l'assume un peu en disant que bah, un héritage culturel d'où je viens et que je pars de là pour voir s'il peut y avoir autre chose, quoi. Mais j'essaie pas de lutter
Contre.
contre, quoi, parce
Ouais,
que.
bah oui, parce que c'est là,
Ouais, oui, c'est
que
là.
ça t'habite. Ouais. Ouais, je comprends très bien ça. Et justement, par rapport au hors-champ, qu'est-ce que tu penses de cette question-là du hors-champ?
Ouais, toi, tu en parlais,
Ouais,
tu en parles
récemment,
souvent.
parce que
J'ai lu un
pour
truc.
moi, ce que je dis, c'est que chaque forme génère un cadre et qu'en même temps, chaque forme provient d'un hors-champ. Le hors-champ serait ce qu'il y a à l'extérieur de l'atelier. Et en même temps, la forme génère à nouveau un autre hors-champ. Donc c'est aussi, alors après, dans hors-champ, tu peux entendre plein de choses, hein, mais c'est à la fois les références et évidemment le monde qui vient dans la pièce qu'on est en train de faire. Et je trouve que pour un peintre, en fait, le cadre étant celui de la toile, se pose de fait la question du hors-champ. Je me demandais si tu y avais réfléchi, mais peut-être qu'on en revient aussi aux références, etc., etc.
Bah non, plus je la prends encore une fois de manière assez littérale.
Ouais, vas-y.
Et tu vois qu'ici, en fait, le mur me permet presque pas de voir mon travail, en fait, quand je suis à
Ouais.
l'atelier. Et pas mal de gens se moquent de moi là-dessus en me disant que
Comment fais-tu?
Ouais. Et donc, en fait, il y a littéralement un truc, un tableau ici, il est toujours construit autour d'un champ et que le fait de l'enlever de l'atelier, ça le fait devenir un fragment, quoi, d'un espace plus grand, quoi, même si c'est assez improvisé, assez. Enfin, là, je regardais l'autre jour toute une émission sur Martin Barré, qui est quand même le peintre qui a conceptualisé, enfin, c'est pas le seul, mais enfin, dans son travail, la question du hors-champ, elle est tout le temps présente, quoi,
Mais ouais.
dans des systèmes. Et là, pour le coup, c'est vraiment appliqué, très rigoureux, quoi. Et du coup, non, je le verrais choses comme ça, ou même, enfin, j'aime bien aussi évidemment Eugène Leroy qui m'a pas mal parlé quand j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile. Et en fait, chez lui, les images de l'atelier sont assez belles et étonnantes, où on voit bien que le tableau, c'est un fragment de l'atelier et un truc qui a pris du temps, avec plein de passages, quoi. Et c'est vrai, moi j'aime bien dire qu'ici je passe beaucoup de temps assis à rien faire et à juste regarder, quoi. Et du coup, le truc se fond, ça plaise, et puis d'un coup on va avoir envie juste de rajouter quelque chose, quoi.
Mais justement, là, moi, en étant dans ton atelier pour la première fois, je vois qu'il y a cette grille en fond, et c'est quelque chose qui est là depuis longtemps.
Ça fait 3 ans et c'était un test en fait, parce que je voulais peindre une grille dans un espace d'exposition.
D'accord.
Comme le mur en fait derrière, c'est du papier que j'ai agrafé, j'ai peint sur le papier.
D'accord.
Mais c'est juste que le mur derrière était tellement souillé que c'était plus simple de mettre du papier blanc plutôt que de repeindre. Et puis du coup la grille est laissée, donc c'est à la fois une forme de paresse et à la fois quelque chose qui est pas, enfin, que j'aime bien, enfin, qui me gêne pas l'œil.
Mais qui joue d'une certaine confusion entre le fond du mur de l'atelier et les tableaux qui sont dessus, quoi.
Mais c'est presque un plaisir masochiste, parce qu'en fait, je sais que ça me perturbe, mais à l'arrivée, quand le tableau va s'extraire et que je vais le voir sur un mur blanc, je vais avoir encore plus de plaisir et je vais le revoir et je vais le redécouvrir.
Ouais,
donc c'est presque un truc personnel là-dessus, quoi.
C'est encore pour faire perdurer le plaisir,
c'est ça.
Histoire.
Toujours plus de fun. Ouais.
C'est ça. Et à un moment donné, dans l'entretien que tu faisais encore une fois avec la galeriste de Sartor.
C'est Louise Sartor.
Ah oui.
Et galeriste Sartor.
Ah voilà, c'est ça. Oui. C'est pour ça que j'ai une confusion. Tu parlais de la surenchère et je me demandais en fait si t'aimais Dada. Et qu'est-ce que tu pensais de Dada? Parce que pour moi, c'est une grande question. Dada, je ne sais pas quoi en penser de ça, de cette surenchère très dadaïste. Disons, moi, ça a évoqué ça. Tu parlais aussi d'éclater de rire, du fait d'être décomplexé, de se décomplexer. Et pour moi, c'est là où on arrive vers une forme de parodie qui a beaucoup été mise en œuvre par Dada, la parodie. Voire un peu de cynisme aussi. Et c'est là où moi je décroche et où ça me parle plus.
Et tu sais pourquoi ça te parle plus?
Parce que j'ai beaucoup de mal avec le cynisme et la parodie.
Ouais.
C'est pas mon truc. Mais du coup, je me demandais, parce que je voyais pas forcément ça dans ton travail avant que je t'entende parler en employant ces mots-là de surenchère. En même temps, je la comprends, la surenchère, je la vois. Mais... qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu t'es intéressé à Dada, toi?
Ouais, beaucoup quand même. Et... j'en parlais juste hier ou avant-hier avec quelqu'un du livre Lipstick Traces, je sais pas si tu l'as
bien
lu,
sûr,
de Greg Marcus, que j'avais lu, ça fait longtemps, je crois.
En tant que bon étudiant ou après?
Ouais, j'étais au Beaux-Arts, mais c'était des étudiants qui me l'avaient conseillé, c'était pas les profs.
D'accord.
D'ailleurs, c'était des étudiants de Lyon, on avait fait une expo avec des étudiants de Lyon qu'on avait invités à Rennes à exposer. Puis,
d'accord.
Je crois que c'était eux qui m'avaient conseillé. Bah, bref. Mais en tout cas, moi, ce livre, je l'avais beaucoup aimé. Et bon, j'ai étudié Dada par d'autres biais, mais moi, j'ai toujours été quand même assez proche de ça. Et là encore, on va revenir aux sources et à l'enfance. C'est que mon père était très. Enfin, m'a vachement initié au situationnisme, à tous ces mouvements-là. Et
d'accord.
Quand lui était jeune, était très proche de ça. Enfin, en tout cas, dans son milieu à Brest, où moi, j'étais aussi à Brest. Donc j'ai été assez vite sensibilisé aux questions de détournement, à tout ça. Et donc Dada est venu aussi comme une référence qui a précédé tout ça. Donc en fait, c'est presque impossible pour moi d'être critiqué à ça, puisqu'en fait j'ai été
baigné,
biberonné.
D'accord.
Et en fait, après, de manière... plus pragmatique, c'est le fait de travailler en groupe qui finalement favorise aussi ça, quoi.
Ouais.
Alors des fois ça devient un peu ridicule, faut se mettre en retrait, enfin, je veux dire, si c'est juste un concours de surenchère entre personnes qui ont trop bu, bon, bah, ça finit souvent un peu ridicule. Mais si on le dose bien, il y a l'histoire d'une créativité collective et d'une énergie collective que j'aime bien, bon, qui passe peut-être par des phases cyniques, mais qui peut aussi...
Le cynisme pour toi, c'est familier?
Un peu, mais après c'est un peu au sens déprimant du terme, donc là c'est peut-être plus lié à... Enfin, en fait, je rapproche plus à une forme de mélancolie
Ah ouais, d'accord.
que une forme de justement de se retrouver ensemble et quelque chose de festif. Donc ouais, en fait non, c'est pas le terme cynique, c'est peut-être plus l'ironie, quoi.
L'ironie, ouais.
Ouais.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Et
Ouais.
oui, c'est plus juste de parler d'ironie, mais du coup enfin, ce qui est assez marrant, enfin, justement avec Damien le DVD, quand on travaille tous les deux, il y a une espèce d'énorme ironie qui est sur le moment de faire lui le dessin qu'il va faire, ou moi la manière dont je vais traiter en peinture son dessin. Et comme ça fait 6-7 ans, des fois on voit des tableaux qui ont 6 ou 7 ans, et l'ironie est plus là du tout, quoi. Alors que sur le
Ah
moment,
oui.
on était peut-être mort de rire en faisant ça, en disant non, tu vas pas faire ça, tu vas pas. Puis en fait,
Ça tombe
voilà, on
après.
décontextualise le truc, on le montre à un autre endroit, et en fait, c'est un tableau
Comme un autre.
sage ou comme un autre, ou je sais pas, quoi. Mais donc c'est pour ça que c'est quand même une histoire de condition, quoi.
Ben ouais, bien sûr.
Comme finalement ce calme ou cette ambiance de l'atelier qu'on va retrouver, en fait, peut-être qu'elle vaut que pour nous-mêmes, et que voilà. Après, tu vois, souvent, moi, quand
Après,
je.
bon, moi,
Ouais.
c'est vrai que je dois être honnête, c'est que Dada, je trouve ça très masculin.
Oui, non, non, c'est sûr.
Et du coup, c'était aussi cette question-là. Alors, je suis un peu désolée parce que j'ai pas regardé qui tu avais invité au Crédac, mais il me semblait que c'était beaucoup de garçons.
Il y avait Damien, il y avait François, l'ancien
Voilà, ça, je m'en
Huberto.
souviens.
Et en fait, c'est tout parce qu'il y avait autrement une. Enfin, il y avait un artiste qui était décédé, donc qui était un sculpteur qui s'appelle Jean-Pierre Dolvecq. Donc il y avait un écrivain qui était un homme, effectivement. Et par contre, en fait, le début, je devais faire l'expo avec une artiste femme.
Ah oui?
Ouais, enfin, je devais travailler avec elle sur la scénographie, quoi.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, ça s'est pas passé. Enfin, on s'est pas fâché du tout, mais ça a pas marché, quoi, sur
D'accord, d'accord.
le fonctionnement. Et puis voilà, mais c'est vrai. Et puis il y avait aussi le tableau du père de mon ami qui est décédé il y a longtemps. Il y avait un petit tableau en plus.
D'accord.
Donc ouais, avec des hommes, après j'avoue que je me pose souvent cette question-là, parce que même enfin, nous au Beaux-Arts, on était quand même dans un univers très masculin sur les enseignants, et même c'était une vieille génération qui pouvait être assez enfin, ouvertement misogyne même. Et j'avoue que nous, on s'était quand même assez vite rendu compte que bah, ça clochait. Et quand on faisait des expositions, donc c'était fin des années 2010, des années 2000, on se posait déjà l'idée de la parité, quoi. Et en fait, moi, en tant que commissaire d'expo, j'ai toujours fait attention à ça. Alors, effectivement, pas pour le Crédac, et j'avoue que je ne m'étais pas posé la question, mais c'était une expo personnelle. Mais autrement, en tant que commissaire d'expo, enfin, c'est pas que je me pose la question, c'est que de temps en temps, j'essaie de voir en arrière pour voir si. Enfin, quel est le rapport, quoi. D'ailleurs, en fait, j'ai plus travaillé avec des femmes ces 5 dernières années qu'avec des hommes dans les projets d'expo commissariat. Mais après, c'était pas un choix non plus, c'est juste que je m'en suis rendu compte, quoi.
Ouais.
Mais ouais, c'est sûr que le dadaïsme et même le situationnisme et tous ces mouvements-là étaient des mouvements, ouais, je pense, je sais pas si on peut dire misogyne, mais en tout cas, il
Bah,
y
de
avait quelque
fait, en tout cas, il
chose.
y avait très peu de
Oui, il
femmes.
y avait très peu de femmes et c'était très masculin, quoi. Et,
Et la question de la surenchère, je la trouve très masculine. Enfin, dans le
Alors,
sens,
ouais.
peut-être que je me trompe, mais moi, en tout cas, c'est quand je vais vers cette histoire-là, je me
Ouais.
sens un
Ouais.
peu exclue parce que je m'y retrouve pas tellement. Mais du
C'est
coup.
intéressant, et du coup j'y pense, et là je me rends compte que des artistes femmes avec qui je travaille là en ce moment, on va même assez fortement dans la surenchère, peut-être
Ah
plus
ouais, d'accord.
que.
Et
Là je travaille avec
tu sens.
Hilary Galbraith, par exemple, une artiste de Rennes, où je trouve son travail déjà dans un rapport de surenchère comme ça. Et là on a juste fait. On a fait des vidéos, j'ai fait une bande son pour son clip, et on a fait un concert ensemble.
D'accord.
Après, moi, c'est pas le fait que ce soit une femme ou un homme, mais c'est juste j'aime bien rencontrer un artiste une
Ouais,
artiste et travailler
ouais.
avec elle. Mais là, j'avoue que j'aime bien, parce que j'ai l'impression qu'elle va plus fort que ce que moi je propose dans ce truc de surenchère.
Et
Donc, ouais.
justement, pardon, je te coupe peut-être.
Non, 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 pas du tout.
Je rebondis sur le fait que pour l'instant, dans tes références, tu as cité beaucoup de peintres hommes, sauf bah, Myriam Cannes. Mais dans les
René
artistes
Lévy aussi.
contemporains,
Ouais.
ouais, René Lévy, ouais. Et dans les artistes contemporains peintres, les artistes, il y en a qui tu pourrais citer
Voilà, il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que Myriam Cannes et René Lévy, moi, ça fait partie des deux artistes, pas parce que c'est des femmes, hein, mais
Mais parce que
quand on me
tu.
demande quelles sont les deux artistes importantes aujourd'hui, j'ai tendance à citer ces deux artistes aussi, parce que c'est presque des antagonismes, à la fois,
Absolument.
pour moi, les travaux sont. Enfin,
Ouais.
je veux dire, je les regarde pas de la même manière, mais ils ont autant de valeur, et Ils sont pas si différents, même si évidemment, quand on va à une expo de René Lévy ou une expo de Meryl Kahn, on n'a pas du tout affaire aux mêmes, intentions, mais ça fait partie des artistes actuellement que j'aime beaucoup. Et après, en fait, après, il n'y a pas que la peinture aussi. Enfin, tu vois, genre de, je pense à Michael E. Smith, moi, que j'aime énormément.
Moi, j'adore.
C'est partie des artistes actuellement, quand je vois des choses qui arrivent, je suis toujours un peu scotché, quoi.
Michael Smith, c'est quelqu'un de, d'extra,
Et après, tu vois, des articles que tu avais montré, genre Nicole Eisenman, j'aime bien, et à la fois, je suis toujours un peu en réserve sur ce travail-là, mais il me fascine un peu. C'est peut-être ça le propre des artistes qui sont intéressants. D'ailleurs, c'est qu'on
Quelle serait ta réserve par rapport à Nicole Eisenman?
Sur le rapport à la figuration, justement, des fois, je me demande dans quelle mesure ça va être trop illustratif, presque. Mais à chaque fois dans le tableau, il y aura quand même un élément qui va m'attirer dans un truc de peinture, enfin, dans un geste de peinture, quoi, qui fait que c'est pas qu'une image, quoi. Mais j'en ai vu très peu en vrai, ceci dit, donc en fait, c'est peut-être ça aussi qui fait la différence, quoi.
Et par exemple, Dana Schutz, tu vois un peu?
Non, je vois de nom, mais là, j'ai aucune image en tête. Après, c'est vrai que ça va plus aussi à Amy Sinman, que j'aime beaucoup.
Ouais, par exemple. Bien sûr.
Ça, c'est vraiment un travail que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en plus. Je sais pas pourquoi, des fois on passe à côté de choses. Quoi, mais, et puis justement aussi dans comment elle. Pas elle théorise, mais comment elle va tous les écrits qu'il y a autour, ou les gestes périphériques aux expositions, même de économique, enfin de microéconomie, tout ça.
Bah, c'est...
Et après, pour revenir juste au, à la place des femmes, bon, j'espère que ça évolue quand même. De manière un peu plus exponentielle. Et moi, je trouve que même en 10 ans, il y a eu pas mal de changements. Et il y a encore beaucoup à faire, mais moi, je suis plutôt optimiste là-dessus, quand même.
Non, moi aussi, je suis plutôt très optimiste. Bien sûr, bien sûr.
Il y a eu effectivement 3000 ans de retard, mais je trouve qu'il y a quand même une accélération. Et je dis ça justement par rapport à mon souvenir quand j'étais étudiant en école d'art, où je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de relativement misogyne. Et bon, maintenant, je sais pas. Enfin, les petites expériences que j'ai eues dans d'autres écoles d'art en tant qu'intervenant, je trouvais que c'était plus le cas. Enfin, ce que je voyais n'était pas aussi lourd. Et... Parce que si les étudiants eux-mêmes sont
très conscients
de ça et ne laisseraient plus rien passer, ne laissent plus, pas plus rien, mais ne laissent plus passer les choses comme nous. Enfin, je me rappelle, je ne citerai pas la personne, mais je montrais un tableau quand j'étais en troisième année, abstrait, enfin bon, bref. Et le type de l'école me dit bah, c'est un bon tableau, mais c'est plutôt une bonne peinture de femme.
Waouh!
Et je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait choqué, mais j'avais rien dit parce que c'était pas mon prof, mais bon. Et je pense que lui c'était pas méchant en plus, c'était juste. Il avait 65 ans, tu vois, mais c'est le truc, voilà, les artistes femmes font ce genre de choses, quoi. Ce qui maintenant est hallucinant, et je pense que maintenant j'aurais pas laissé. Enfin, déjà la personne n'aurait sans doute pas dit, enfin, j'espère pas, et puis moi étudiant j'aurais sans doute pas laissé passer le truc non plus, enfin voilà. Mais ouais, des trucs. Et beaucoup de mes amis qui étaient au Beaux-Arts à l'époque, avec qui je suis toujours ami, nous font des fois comprendre qu'on passait un peu à côté des choses, quand même nous en tant qu'étudiants, et qu'on était habitués.
Non, c'est vraiment en train de changer. Après, ça dépend des écoles, ça dépend des... Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais ce qui est évident, c'est que les étudiants s'emparent de cette question d'une façon très frontale, quoi. Et ça, c'est super. Ce qui est compliqué quand tu es étudiante sans qu'il y ait de professeur femme dans une école, c'est que tu peux pas te projeter en fait dans ce que ce sera après l'école en tant que femme. Alors moi j'ai trouvé des figures complètement vivantes, dont Anita Molinero, Elisabeth Ballet et Tatiana Trouvé, qui ont été des gens, des trois femmes.
À Lyon, ouais.
J'étais à Lyon et j'avais pour prof Tatiana Trouvé. Et puis ensuite, Elisabeth Ballet, je l'ai pas eu comme prof, mais il se trouve qu'elle était à Lyon quand j'étais en premier cycle en tant qu'étudiante, et donc je la connaissais quand même. Et c'est bête à dire, mais elle était vivante, quoi. Et Anita Molinero, j'ai eu connaissance de son travail à la fin de mes études, et ensuite je l'ai rencontrée. Et pour moi, ça a été vraiment trois femmes importantes pour savoir que c'était possible d'être artiste après l'école en tant que femme. Et puis après, il y a eu des workshops avec d'autres artistes femmes aussi. Mais c'est là où on progresse, c'est que ben maintenant, il y a des professeurs artistes femmes dans les écoles, de plus en plus. Et donc ça, c'est vraiment hyper important aussi, je pense.
Ah oui,
pour la suite, quoi.
Puis faut, je pense là, forcer un peu la parité.
Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait près d'une heure qu'on discute maintenant. Je te remercie de m'avoir accueilli dans ton atelier et à très vite donc dans mon atelier.